Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Bamako, Studio Tamani, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. La situation sécuritaire de plus en plus préoccupante aussi bien au nord qu'au centre du Mali avec ça et là des braquages, vols à main armée, banditisme à grande échelle, attentats terroristes. Pour faire face à la situation, les spécialistes préconisent différentes stratégies. Des individus ont tenté de saccager hier la radio Kaira de Kuchala. C'est la police qui est intervenue pour empêcher l'acte de vandalisme. Selon les responsables de l'UTEL, tout acte visant à détruire une station radiophonique est condamnable. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga était hier à Soumpi dans le siège de Niafanké. Il a rencontré les troupes de l'armée malienne et a annoncé que des dispositions seront prises pour sécuriser davantage la localité. COP23 à Bonn en Allemagne, Fidji qui assure la présence de la rencontre a donné le ton. L'autorité de ces pays veut rassembler tous les acteurs autour d'une grande coalition pour lutter contre les phénomènes extrêmes des changements climatiques et la concrétisation des engagements de Paris. Auditrice, auditeur, bienvenue. Braquage, vol à main armée, banditisme à grande échelle, attentats terroristes aussi bien au nord qu'au centre du Mali, le spectre de l'insécurité persiste dans le pays, une insécurité qui est en train d'étaler au grand jour les failles de la politique sécuritaire menée par les autorités. Pour lutter efficacement contre les attaques djihadistes, les spécialistes des questions sécuritaires préconisent différentes stratégies. Idrissa Sakho.
L'insécurité au centre et au nord du Mali a pris des proportions inquiétantes. Cette semaine, de nombreuses attaques menées par des hommes armés non identifiés ont fait plus de 10 morts, dont des civils et plusieurs blessés. Peut-on parler de manque de moyens dans cette guerre asymétrique au moment où la force conjointe du G5 Sahel a débuté ses premières opérations, ou c'est simplement une question de stratégie? Serge Daniel, journaliste et spécialiste des questions de sécurité.
Ce qu'il nous faut aujourd'hui, de mon point de vue, pour être pratique, c'est une police municipale. Nous n'avons plus les forces de sécurité de défense qui peuvent assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Surtout que les djihadistes n'ont pas d'armée. Ce n'est pas une armée régulière. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, notre armée, notre police, nos forces de défense ne peuvent plus faire le travail. Il faut décentraliser nos forces de sécurité. C'est pour ça que je parle de police municipale. Ce n'est pas une police municipale qui va dormir dans les villes. C'est une police municipale rurale, par exemple, qui va aller dans les forêts. Est-ce que c'est une police ou des forces de défense spéciales? Trouvez l'expression que vous voulez. Il faut que nous développons une nouvelle stratégie de défense.
Pour faire face aux terroristes, plusieurs pistes sont à explorer. Utiliser les mêmes modes opératoires que les djihadistes en évitant de sauter sur les mines ou former des brigades mobiles. André Bourgeot, chercheur au CNRS.
Et s'il y avait une conception d'une armée beaucoup plus mobile, avec des petits groupes, etc., il y aurait possibilité d'affronter. Il faut effectivement utiliser les mêmes modes opératoires que l'ennemi, d'une part. Moi, j'ai constaté que pendant la guerre d'Algérie, il y avait toujours des ouvertures de route pour éviter de sauter sur les mines. Donc je suis un petit peu surpris que dans les conditions actuelles, vous avez des convois militaires qui arrivent avec des hautes personnalités et qui sautent sur une mine sans qu'il y ait eu au préalable des appareils qui viennent pour essayer de déminer. Est-ce qu'ils n'ont pas ce type de matériel ou est-ce qu'ils n'ont pas cette conception d'envoyer des démineurs?
La sécurisation des convois militaires et civils est impréalable, pense le juriste Ibrahim Ikassa Maïga. Il estime que l'État doit occuper les points stratégiques, notamment les frontières et le fleuve.
L'État doit occuper les points névralgiques. Il y a des points stratégiques. J'ai souvent donné comme exemple le fleuve Niger, qui est un barrage naturel et qui contient toute la zone du Gourma, de Mopti jusqu'à Gossi, jusqu'à à Labzanga. Ce barrage naturel peut être, pour une première fois, on prend un mois, on sécurise tout, on nettoie tout, les forêts et autres, on visite, puisque maintenant on a les forces internationales, nous avons des hélicos, nous avons des avions, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais on peut nettoyer. Maintenant, quand c'est nettoyé, ça veut dire qu'on peut facilement sécuriser et maintenant faire face au reste.
Réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani, sur son compte Twitter. Vos réactions sont également attendues sur le répondeur 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Deuxième jour de grève de la faim des co-détenus d'Amadou Ayassa Nogo. Les détenus en question demandent la reprise de leur procès dans l'affaire de l'assassinat en 2013 de 21 bérets rouges retrouvés dans un charnier près de Bamako. Le procès reporté en décembre 2016 peine à reprendre. Des individus ont tenté hier de saccager la radio Kaira de Kuchala. La police est intervenue pour empêcher l'acte de vandalisme. Selon les responsables de l'Union des radios-télévisions libres du Mali, tout acte visant à détruire une station radiophonique est condamnable. Bandioko Dante, président de l'URTEL, joint par Samba Doumbia.
En réalité, je vous parle, et d'après les informations que j'ai à ma possession, la radio en question n'a nullement pas été saccagée. Certainement, il y a eu des tentatives. Maintenant, ce que nous pouvons dire par rapport à ça, quel que soit le motif saccagé, tenter de saccager une radio est condamnable. C'est une situation que nous condamnons. Mais à l'heure où je vous parle, et d'après les informations que nous avons, la radio n'a pas été saccagée. Bon, nul n'a le droit de se rendre justice. Je pense quand même que force doit rester à la loi. Les uns et les autres doivent travailler selon les règles d'éthique et de déontologie. Si des gens estiment qu'ils ont été violentés, ils doivent s'en remettre à la justice. Maintenant, quant à des règlements de compte, c'est vraiment une situation regrettable.
Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier à Soumpi dans le cercle de Niafanké. Au cours de cette visite, le Premier ministre a rencontré les troupes de l'armée malienne avant d'annoncer à la population que des dispositions seront prises pour sécuriser davantage la localité. Les élus de Soumpi ont saisi l'opportunité pour demander à tous de s'impliquer pour le retour de la sécurité. Mohamed Dofana, maire de Soumpi, joint par Assetou Kanté.
La visite du Premier ministre dans la localité de Soumpi et Niafanké, vraiment c'est fait un acte important pour la population de Soumpi et la population de Niafanké. Parce que ça leur a assuré qu'il y aura la sécurité, Inch'Allah, dans la zone. Et aussi, il y aura aussi les reprises de la route de nationale. Je passe à Niafanké, Léré, Nampala, Dimakura, parce que ça, c'est une route qui est très importante pour nous. Ça passait par tous les cercles de Niafanké. Donc, vraiment, c'est important pour nous. Ça a attiré tout le monde. Et les gens, ils sont très contents. Je demande à tout le monde d'impliquer tout le monde, toutes les populations, l'engagement de tout le monde pour chercher les solutions pour les sécurités totales dans notre zone. Nos populations sont concernées, l'armée, vraiment, on va tous impliquer dans ce qui nous concerne.
COP23, Fidji, qui assure la présidence de cette rencontre consacrée à l'environnement, a donné le ton. Les autorités de ces pays veulent rassembler tous les acteurs autour d'une grande coalition pour lutter contre les phénomènes extrêmes des changements climatiques et la concrétisation des engagements de Paris. Le point avec notre envoyé spécial, Mohamed Touré.
Partout dans le monde, des milliers de personnes sont en souffrance, abasourdies par le déferlement des forces naturelles contre elles, a déclaré le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama, et d'ajouter notre rôle en tant que responsable et de répondre à leur détresse en faisant appel à tous les moyens à notre disposition. Cela signifie que nous devons honorer pleinement nos engagements et ne pas nous dérober. Fidji a décidé de marquer le ton d'emblée en appelant au rassemblement de tous les acteurs, c'est-à-dire les autorités, la société civile, le secteur privé et les organisations confessionnelles. L'idée annoncée est de mettre sur pied une grande coalition qui se focalisera sur la vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes. Pourquoi ce focus? D'une part, 2017 enregistre un bilan particulièrement désastreux. Tout le monde garde en tête les récents ouragans qui ont traversé tout l'Atlantique Sud. D'autre part, les îles Fidji sont particulièrement exposées à ces phénomènes et la montée des océans. La secrétaire exécutive de l'ONU Changement Climatique, Patricia Espinoza, a, elle, souligné l'urgence d'enregistrer des progrès immédiats. Je cite, « Nous devons aussi progresser pour concrétiser les engagements prévus pour 2020. » À cet égard, la finance et les promesses d'atténuation sont essentielles. Au Mali, la saison des pluies cette année a été peu abondante, surtout au centre du pays, faisant craindre une insécurité alimentaire. Les changements climatiques se manifestent dans ce pays également par l'avancée du désert, les incendies, les inondations et les sécheresses chroniques. Mohamedou Touré depuis Bonn pour Studio Tamani.
La mairie de la commune 5 du district de Bamako a offert ce matin un chèque de 4 700 000 francs CFA au comité local sportif de sa commune. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la montée en première division de l'équipe Black Star Club. Une occasion pour le maire d'inviter les populations de la commune 5 à payer les taxes et impôts. Amadou Ouattara, maire de la commune 5, au micro d'Imirana Kilumaïka.
Notre conviction, c'est que, en tant que maire, aucun domaine ne doit laisser au hasard. Parce que la pratique sportive éloigne notre jeunesse des vices. Aujourd'hui, les espaces sportifs, les terrains de football manquent cruellement. C'est malheureux. Mais nous sommes en train de réfléchir pour faire en sorte qu'on puisse aménager le peu de terrain que nous avions pour que la pratique sportive soit de mise, pour qu'il y ait alternance sur les terrains parce qu'il en manque crucialement. Pour accompagner le sport, il faut de l'argent. Je vais inviter les populations de la commune 5 à se mobiliser.
utilisés pour payer les taxes. Et c'est avec ces taxes-là qu'on pourra faire face à tous les domaines. Parce que nous avons dit, aujourd'hui c'est le sport, demain c'est la santé, après demain c'est l'éducation. Il n'y a aucun secteur qui va être laissé au hasard. Le maire est le développeur et nous allons nous engager pour résoudre, prendre notre part de responsabilité dans le développement de notre commune.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, la journée mondiale de la famille rurale a été célébrée hier à Koulikoro avec comme thème renforcer l'autonomisation économique des familles rurales par l'introduction des nouvelles techniques et technologies de production. Au cours de cette journée, le projet financement agricole rural a remis la somme de 400 000 francs CFA au groupement des femmes de Koulikoro dénommé l'association professionnelle des familles rurales. Cette action vise à améliorer la capacité de production des femmes en vue de leur autonomisation. 300 millions de francs CFA, c'est le coût de la nouvelle adduction d'eau de la ville de Fourou dans le sud de Kadjolo. Elle est composée de 28 bonnes fontaines et un château d'une capacité de 120 mètres cubes d'eau. L'infrastructure financée par l'Union européenne a été inaugurée hier. Selon des sources locales, le château va permettre à 12 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable dans la localité. Le déficit pluviométrique va entraîner cette année dans le secteur de Bukuni une réduction de récolte avec un risque d'insécurité alimentaire. C'est ce qui ressort de l'atelier de suivi et évaluation de la Direction nationale de l'agriculture tenu hier dans la localité. Selon les organisateurs, Bukuni n'a enregistré cette année que 850 mm contre 1060 mm l'année dernière. La campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite va débuter le 10 novembre prochain dans le centre de Kati. Cette activité qui concerne les enfants de 0 à 5 ans va durer 4 jours. L'information a été donnée hier par les autorités sanitaires au cours des événements consacrés à la préparation de cette campagne. Le Grand Dialogue, votre émission de débat de tous les soirs, c'est dans quelques minutes avec Aliou Sylvie. Il est déjà présent. Bonsoir Aliou.
Bonsoir Fomba.
Peut-on déjà savoir le sujet que vous avez retenu pour le débat de ce soir?
Ce soir, nous allons parler de l'affaire des bérets rouges. On a compris que 17 militaires ont entamé une grève de la faim depuis lundi dernier. Donc, c'est pour pouvoir exiger qu'ils soient jugés. Alors, pour dénoncer cette lenteur et l'expiration du délai légal de détention préventive, leur épouse exige aux autorités de juger ou de libérer leur mari. Alors pour débattre de cela, maintenant nous allons inviter sur ce plateau Alifa Habib Kone qui est avocat. Madame Sagara Bintou Maïga, elle est présidente de l'association des victimes de bérets rouges à Pembra. Amadou Thieblin Diara sera au téléphone avec nous et Mamadou Guissé qui est juriste également.
Fin de ce journal. Allô, dans un instant, vous pourrez suivre notre magazine.